Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.
Bonjour Christine.
Bonjour Fabrice.
Merci d'être à notre micro pour partager avec nous cette réflexion que nous avons commencé la dernière fois autour de la programmation neuro-linguistique. Alors cette introduction que vous avez faite m'a renvoyé à d'autres émissions que nous avions faites auparavant autour du style social où nous découvrions que nous sommes finalement tous différents, que nous avons des modes de fonctionnement différents et qu'il y a un défi devant nous, c'est d'apprendre ces modes différents, de les comprendre et surtout d'apprendre à communiquer, à être en relation les uns avec les autres, sachant que, voilà, vous parliez des goûts et des couleurs, ben, il y a des goûts et des couleurs, effectivement, qui sont, là encore, différents et qui nécessitent de notre part, j'allais dire, une prise de recul et la nécessité d'une adaptation, entre guillemets. C'est bien ça ?
C'est bien ça. J'allais justement ajouter adaptation avec prise de recul. L'idée est la même, hein, c'est-à-dire, là, on a pris le modèle, donc je vous avais expliqué hein, que la programmation neurolinguistique était un modèle, donc en fait, on a observé, on s'est dit qu'on pouvait faire une copie de toutes ces relations qui se passaient très bien, et d'observer les raisons pour lesquelles ça se passait bien. Et donc, quand on fait de la programmation neurolinguistique ou lorsqu'on étudie les profils psychosociologiques, l'idée est de se dire, on est tous différents, on a tous des valeurs que l'on doit respecter, mais si je veux rentrer en communication avec l'autre, eh bien je me dois d'aller chercher les valeurs de l'autre, le profil de l'autre, sa manière de communiquer pour m'y adapter, de manière à ce que l'autre se sente plus compris, plus valorisé, et cette posture lui donnera envie de communiquer avec nous. Bien sûr, on ne peut pas faire ça tout le temps. Il y a des moments où il faut qu'on se repose aussi et que l'on soit plus soi-même. Mais dans certains métiers, il faut travailler la communication et donc il faut travailler le mode de communication avec les autres.
Pour moi, ça signifie aussi qu'il est nécessaire par conséquent d'être en éveil permanent, ce qui n'est pas évident parce que parfois on est concentré sur quelque chose ou alors on est sous stress ou encore il y a tellement de travail que oui, enfin ça rejoint le stress. Comment adopter cette démarche qui consiste à justement être attentif au fait que l'autre a une perception différente de la mienne.
Au départ, c'est beaucoup, beaucoup de concentration, c'est-à-dire que c'est vraiment donner tout son temps et toute son énergie à la personne qui est en face de vous et qui communique avec vous. Ensuite, avec l'expérience, il y a aussi des automatismes qui se font. Et tout à l'heure, nous parlerons peut-être à partir des cinq sens, le langage qui est utilisé par certaines personnes. Et en fait, repérer le langage utilisé devient, par expérience, quelque chose de tout à fait naturel. Donc il y a des choses qui demandent beaucoup de concentration et il y a des phénomènes que l'on a intégrés et qui se font naturellement avec le temps.
C'est un petit peu comme le sport finalement. Au fur et à mesure que l'on s'entraîne, ça vient tout seul.
Oui, je pense que c'est une belle analogie. L'entraînement, l'expérience va faire que l'on va acquérir des automatismes. Et justement, c'est intéressant cette remarque, ça permet de vous donner une explication PNL du conscient et de l'inconscient, qui n'est pas forcément les définitions que l'on trouve dans tous les domaines. En PNL, le conscient, c'est ce que l'on fait lorsqu'on y pense, et l'inconscient, c'est ce que l'on fait sans y penser, parce qu'on a tellement mis en place cette posture ou cette fonction qu'on l'a fait, mais on n'a pas besoin de réclamer des informations à notre cerveau pour le faire. L'exemple du permis de conduire est vraiment le plus simple. Hein. En PNL, on fera consciemment des manœuvres lorsqu'on n'a pas encore bien d'expérience sur la manière de conduire. Un vieux chauffeur va faire un certain nombre de choses d'une manière inconsciente. Mmh. Alors je vous rappelle, hein, c'est le conscient et l'inconscient vu par les PNL.
Oui, et puis il faut que les deux soient en relation aussi pour que ça se passe bien, parce que parfois on est tellement pris dans ses pensées que l'on va là où on ne veut pas aller.
Tout à fait. De toute façon, la concentration et être ici et maintenant à ce qu'on fait est toujours nécessaire, puisque si on ne fait pas appel quand même à notre conscient de temps en temps, on est pris dans des postures que l'on n'aurait pas voulu. Et je pense que effectivement, si l'on pense à autre chose alors que l'on conduit sa voiture, on peut louper une route à droite ou un rond-point là où on devait tourner. Je suis bien d'accord avec vous.
Comme vous nous y avez invité, je vous propose de parler des cinq sens, justement, qui sont déterminants dans le cadre de la PNL.
Alors, moi, je vais vous parler de trois sens pour la PNL, et ceux qui sont utilisés par la PNL, la vue, l'ouïe, et ce que l'on pourra parler du ressenti, du toucher. Donc, en PNL, on va parler du VAC, V-A-K, visuel, auditif et kinesthésique. Je pense que ça n'étonnera personne si je dis que nous captons les informations via donc tous nos sens, et particulièrement de manière visuelle, auditive et kinesthésique dans notre considération, et que on va donc mémoriser les informations que nous avons captées dans des domaines différents. Pour certaines personnes, ce sera donc mémorisé sous forme visuel, et à ce moment-là, ce sont des images qui sont souvent appelées lors de la restitution de l'information. Par exemple, si je vous dis, quand je vous parle de la mer, Fabrice, est-ce que vous pourriez me donner 5 ou 6 informations concernant la mer ?
Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le mot vague. La mer étant bleue, le bleu évidemment aussi, en plus de l'écume qui vient sur les vagues. Et puis je vois un horizon, je vois quelque chose à perte de vue.
Donc il est clair qu'en utilisant en plus le verbe voir, on peut vraiment penser que vous étiez dans un registre visuel, et que lorsque vous étiez en train de me parler de la mer, je peux penser, hein, je ne peux pas l'affirmer, mais je peux penser que vous étiez en train de voir quelque chose dans votre imagination.
Je me suis piégé moi-même, je le reconnais pas.
Et donc, vous avez utilisé des prédicats visuels tels que la couleur, le bleu, l'écume. Et puis, vous avez utilisé aussi le mot vague. Alors là, c'est intéressant parce que si j'observe, je me dis, bon, il y a plusieurs significations sur vague. Et donc, est-ce que vous voyez les vagues ou est-ce que vous les entendiez ? Qu'est-ce que vous...
C'est essentiellement les voir, effectivement, les voir dérouler, voir les rouleaux. Pas forcément les entendre en premier lieu.
Voilà. Donc, tout ce que vous m'avez dit était effectivement dans un registre visuel. Et donc, si je veux continuer la conversation avec vous et en savoir un peu plus sur la mer, il est important pour moi d'utiliser des prédicats visuels. Et donc, si je vous questionne, il vaut mieux que j'utilise des mots comme voir, percevoir, vision, horizon, tout ce qui aura un rapport clair, illustré, perspective. Donc, par exemple, je peux vous dire finalement quel est le panorama que vous avez par rapport à la mer. Est-ce que vous pourriez me décrire ce panorama, par exemple ? Ou alors, quel est votre point de vue sur des vacances à la mer ? Voilà. Et là, il y a de fortes chances que vous vous sentiez tout à fait à l'aise pour me parler de la mer.
Donc de cette manière, vous vous mettez à ma portée, en fait.
Exactement. C'est comme si je vous parle dans la langue que vous parlez. C'est-à-dire, si je rencontre un Anglais, c'est plus facile pour lui de me parler, de me comprendre si je lui parle anglais, même c'est si sûr. Je ne parle pas très très bien anglais. Parce que si je ne suis pas moi-même dans un registre visuel, je ne vais pas parler de manière naturelle avec des prédicats visuels. Et c'est là où on peut dire que je ne parle pas dans ma langue maternelle, par exemple. Mais si je fais l'effort de vous parler dans ce registre-là, eh bien, la communication, le lien sera plus important.
Et à l'inverse, pour bloquer la communication, qu'est-ce qu'il faudrait dire, enfin, ou qu'il ne faut surtout pas dire ?
Alors, le risque de bloquer la conversation, ce serait que je vous pose des questions en auditif ou en kinesthésique, puisque le registre auditif, par exemple, je vous ai interviewé sur les vagues, je vous ai posé la question, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était la vision ou le fait d'entendre les vagues ? Vous auriez pu me dire, c'est le fait d'entendre les vagues. Mais vous m'avez dit, non, c'est pas du tout ça. Alors par contre, si moi, je suis une auditive et que le mot vague, c'était le bruit des vagues, et que je vous demande finalement, quand vous êtes là-bas, sur la plage, et que vous écoutez les bruits, et que vous notez un certain nombre d'éléments, que retiendriez-vous ? Quelque part, je bloque la conversation, parce que vous n'êtes pas dans ce registre-là.
Et si je vous disais que je sens les embruns sur mon visage ?
Alors à ce moment-là, vous êtes dans un registre kinesthésique et je vais repartir peut-être un peu plus sur les émotions, sur le ressenti. Je vais vous parler de sensibilité. Alors comment projetez-vous vos prochaines vacances à la mer ? Voilà. Vous voyez, donc c'est l'utilisation des mots plus précis. Alors, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de mots qui ne sont ni du registre du visuel, ni du registre de l'auditif, ni du registre kinesthésique. Ils sont indifférents, comme on dit. Donc, si on ne veut pas prendre de risques, on utilise le registre des mots indifférents. Mais si on veut aider la personne à s'exprimer, par exemple, vous devez travailler en réunion avec quelqu'un qui est relativement timide, qui est relativement en retrait, eh bien, de repérer son canal et parler dans sa langue va aider cette personne à s'exprimer. Et peut-être, elle vous sera très reconnaissante de l'avoir aidé à s'exprimer sur son projet, sur ses recherches, etc.
Il y a un mot qui me vient à l'esprit à la fin de cette chronique pour aujourd'hui, c'est le mot accompagnement. J'ai l'impression que ce que vous nous expliquez là, c'est une manière de s'accompagner l'un l'autre finalement.
Alors c'est très bien, puisqu'en fait, pour moi, le mot accompagnement a beaucoup, beaucoup de sens, puisque j'en fais mon quotidien. Oui, effectivement, c'est s'accompagner l'un l'autre pour aller plus loin.
Alors nous allons rester avec cette notion pour aujourd'hui et puis on continuera à parler bien sûr de PNL dans les émissions à venir pour découvrir encore plus en profondeur ce à quoi ça nous invite surtout. Christine, je vous remercie beaucoup. À bientôt.
Merci Fabrice. À bientôt.
C'était Votre coach chez vous, une chronique proposée par Christine Huchette.